Moi, j'ai toujours pensé que finalement, l'homme faisait des progrès techniques. En faisant des progrès techniques, il créait plus de richesses. Donc, il y avait un partage des richesses qui était plus important. Et à partir de ce moment-là, on pouvait peut-être parler de revenus. Alors, j'ai entendu toutes vos discussions salariales, de revenus universels. Mais juste, ne serait-ce que parce que être dans une sorte de partage de richesses créées est de plus en plus important. Et finalement, il y a moins besoin de travailler. Alors après, il y a d'autres formes de travail. Comme vous dites, par exemple, pour les entreprises souvent qui créent de nouvelles... et qui sont en effet subordonnées au patronat, ça. Enfin, qui sont
émancipées.
Tant mieux. Enfin, c'est pour moi, c'est le rêve absolu. Mais justement, ça pourrait être aussi un moyen de régler le problème du patronat sur le plan de l'organisation. Bien sûr, en mettant en question la collectivisation des instruments de travail. Je ne sais pas si je suis clair.
Est-ce qu'il y a moins besoin de travail? Ça, c'est un débat. Il y a moins besoin de travail subordonné, c'est évident. Ça, nous pourrions nous en passer complètement. Et là, précisément, le fondement de la crise actuelle, c'est d'avoir confié au crédit ce qui devrait revenir au salaire. Donc, au contraire, nous sommes très, très à l'aise pour affronter, dans la crise actuelle, la revendication du salaire universel. En quoi le salaire universel Pour vous répondre, j'ai besoin de donner une deuxième dimension du salaire universel que je n'ai pas donnée. Salaire universel, c'est-à-dire salaire pour tous. À partir de la fin du lycée, par exemple, on pourrait dire qu'à partir de la fin du lycée, tout le monde a du salaire. À la qualification, alors sans qualification jusqu'à la fin des études, et puis ensuite, donc un forfait forcément, et ensuite à la qualification. Les étudiants, ils ont besoin d'un salaire, pas d'une allocation économique. D'un salaire, il travaille. Et ce travail doit être assumé par du salaire, évidemment. Mais la deuxième dimension du salaire universel, c'est le salaire pour tout. C'est-à-dire que la sécurité sociale, que vous avez mis à juste titre comme l'invention majeure du XXe siècle, il y a peut-être un mot certainement, mais je ne sais plus, mais enfin, en tout cas, dans l'affiche. La sécurité sociale, non seulement elle nous montre que nous n'avons pas besoin d'employeurs, mais elle nous montre que nous n'avons pas besoin de l'accumulation financière. Que nous n'avons pas besoin de la prévoyance. Nous assumons des engagements massifs et de long terme de la retraite sans aucune épargne. La retraite, c'est 12% du PIB, avec des engagements pris sur des dizaines d'années. Aucune épargne pour financer ça, le nécessaire. L'investissement, c'est 15% du PIB aujourd'hui, l'investissement. Amorti en 5 ans. Donc c'est un engagement aussi massif et de bien plus court terme. Il n'y a pas besoin d'épargne pour investir. Aucun besoin. Il suffit de résoudre aujourd'hui, demain, comme nous le faisons pour la retraite. C'est-à-dire d'additionner au salaire direct et à la cotisation sociale une cotisation économique. Une cotisation économique, pour que elle assure 15% du PIB, il faudrait qu'elle soit de 25% du salaire brut. L'équivalent des cotisations retraite. À peu près. Un peu plus, donc. 30% du salaire brut. Puisque c'est 15% du PIB, les retraites c'est 12%. 30% du salaire brut, pris où? Ben, pris sur la valeur ajoutée, bien sûr. Qui va où? Qui va à des caisses d'investissement. Qui font quoi? Qui avancent des fonds sans intérêt. Puisqu'il n'y a pas d'interpériodicité. Puisqu'en économie, il n'y a que de l'intra-périodicité. Le taux d'intérêt, il n'est légitime que parce qu'il y a appropriation privée de capitaux. Mais il n'est absolument pas légitimé par le fait de modifier les échéances temporelles de la monnaie, ce qui est le rôle de fonds d'investissement. Nous n'avons besoin ni de banque, ni de bourse. De bourse, c'est évident, la bourse, c'est malfaisant. Mais nous n'avons pas besoin de banque. Aucun besoin de banque. De même que nous n'avons pas besoin de fonds de pension. Qu'est-ce que c'est que les banques? C'est la rétention à titre privatif de monnaie qui pourrait circuler sans taux d'intérêt par une délibération politique. Le salaire est la clé de la sortie de la crise par le haut. Ajoutons la cotisation sociale, d'abord ne remplaçons pas par la CSG et autres billevesées, d'accord, et autres fonds de pension et autres mutuelles. Vous avez des syndicalistes qui aujourd'hui passent 3 minutes par... C'est imposé par le patron, je suis d'accord. Ils sont dans un agenda imposé. 3 minutes, j'ai fait des observations d'entreprise. 3 minutes par an pour discuter des salaires à chaque CE, la mutuelle. C'est-à-dire l'accumulation financière qui se substitue à la hausse des salaires. Et les patrons sont prêts à abonder les mutuelles bien au-delà, enfin à des coûts supérieurs à ce qu'ils paieraient en hausse des cotisations sociales. Parce que l'ennemi, c'est le salaire. Parce que le salaire change le rapport au temps. Il change le rapport à l'État. Pas besoin d'État, en fait. Il y a besoin de pouvoir. Mais pas sous la forme étatique que nous connaissons. Ça, il faut beaucoup réfléchir, surtout que les marxistes sur le pouvoir, ils sont fin nuls et ça a donné beaucoup de conneries. Donc, il y a certainement, je suis marxiste et donc je connais mes limites hein, dans mon corpus théorique, mais il y a une invention à travers le salaire de régulations politiques qui ne sont pas étatiques. C'est intéressant. Nous qui nous gargarisons la société civile, il y en a une là, qu'on n'a pas été capable d'assumer dans la sécurité sociale. Le revenu universel, c'est très pauvre, excusez-moi, par rapport au salaire. Parce que le revenu universel, il nous pose toujours comme des êtres de besoin. Le salaire, il nous pose comme des producteurs de richesses qui ont une qualification qui ne peut pas être contestée par un employeur. Alors que le revenu universel, il nous pose comme ce que voudrait en permanence le capital que nous soyons, des breadwinners, des gens qui gagnent du pouvoir d'achat. Là aussi, dans la nouvelle langue, le pouvoir d'achat. La hausse du pouvoir d'achat qui passe par la baisse des salaires, c'est formidable. Le revenu universel, il est complètement dans l'agenda de la bourgeoisie. Excusez-moi, hein, je suis extrêmement agressif peut-être, hein, mais parce que j'ai là-dessus des idées claires qui sont peut-être simplistes. Je ne demande pas mieux d'en discuter, c'est pour ça que je les expose, hein, mais qui ne sont pas dans l'à peu près hein, sur ces questions. Le revenu universel, il nous pose justement comme des gens qui ont besoin de revenus, et non pas comme des gens qui créent la richesse. Et ce revenu, ils y ont droit parce qu'il y aurait, depuis plusieurs générations, il y aura un patrimoine collectif qu'on pourrait se partager au titre d'un revenu, etc. Vision, encore une fois, extrêmement pauvre de ce que nous pouvons, au contraire, conquérir. Parce que le revenu universel, il vous laisse avec des employeurs. Vous avez deux chèques. Vous avez le chèque de revenu universel, puis vous avez le deuxième chèque, le chèque de l'emploi. Il nous laisse dans la merde complète. Et même, il peut aider la logique de l'emploi, puisqu'il donne cette sécurité qui fait qu'ensuite, on se balade sur le marché du travail. Le revenu universel, il ressemble furieusement au premier pilier de solidarité nationale que la réforme tente de mettre en place à la place du salaire.
Rattacher toujours le fait de garder le terme de salaire fait que pour moi moi, malgré tout, il y a toujours une référence à un employeur, même si je comprends, à travers l'exemple de l'étudiant qui travaille qui n'a pas encore d'employeur, il y a cette notion de toucher déjà un salaire. Donc, il y a une notion d'employeur qui serait plus un employeur concret, ponctuel, mais qui serait quand même de l'ordre de la fabrication d'un bien commun, puisqu'on travaillerait pour la collectivité, dans un certain sens. Dans ce sens où, quand on n'a pas d'employeur, on continue à travailler. Quand on est retraité, on a une forme de productivité qui revient à la collectivité. Donc, effectivement, je me questionne sur le pourquoi du maintien, même si vous l'avez expliqué, mais pourquoi du maintien du terme de salaire, dans le sens où il faut, nous, qu'on se déconnecte de cette notion de salarié qui est...
Subordonné à l'employeur.
Pourquoi pas, mais j'essaie de comprendre la différence. Et ensuite, je suis pas convaincue que le fait d'avoir la possibilité d'avoir un salaire universel, donc quelles que soient les situations, se maintient de revenus malgré tout, empêche la continuité de l'existence d'un marché du travail. Ça, pour l'instant, je ne vois pas de manière très claire. Et puis, dernière chose, pour ce qui est de la distinction entre cotisation et fiscalisation, appel à la cotisation pour abonder les caisses de solidarité maladie, de chômage, etc. En quoi un système, un autre pilier qui serait le pilier de la fiscalisation, alors en quoi là donc c'est l'État qui intervient pour abonder ces caisses, en quoi le fait de prélever une part d'impôts plus importantes sur des flux qui ne sont pas taxés, des revenus qui ne sont pas taxés, évidemment en bourse, même si on pense qu'il y a possibilité de réduire la part prise par la bourse avec le développement d'un salaire universel, mais malgré tout, en quoi un pilier étatique passant par ce type d'impôts empêcherait
un progrès.
La possibilité de prendre de la puissance, en gros, en se détachant de.
Des employeurs
et des. De marché, etc.
Je me sens que c'est pas forcément. Un pilier, un autre pilier. C'est aussi une manière d'abonder d'avoir des ressources qui proviennent de. Moi, je suis tout près d'un peu roulé dans le goudron et dans les plumes, mais c'est vrai que moi, j'ai défendu la CSG parce que ça ne me perturbe pas. On contribue au financement de la sécurité sociale par des ressources multiples. Donc, j'ai du mal à être scandalisée. Alors, c'est vrai, je ne sais pas, je vais rouler dans le boulot.
Non,
mais...
non. Non, de toute façon.
Il y a des notions tellement étonnantes.
Je pense que la CSG ici est majoritaire, donc je n'allais pas vous faire rouler dans le goudron.
Je connais des opposants farouches.
Les opposants farouches de la CSG, ils se sont beaucoup tus. Pour le moment, il y a très peu de discours anti-CSG qui soient publics, en tout cas. Donc, vous êtes dans la norme, là.
Non, juste, parce que vous avez plusieurs fois parlé par rapport au chômage, du service public de l'emploi, quoi. Que c'est un service public, là aussi, il y a la fusion, c'est à mettre entre guillemets et en numérique, ANP, UNEDIC, ça veut dire privatisation d'un service public pour le rendre privé. Et par contre, enfin, j'ai vraiment du mal avec la... Enfin, moi, je ne produis jamais de richesse. C'est quelque chose que j'imagine même pas. Je produis des choses, mais je produis surtout pas de la richesse. Je ne sais pas ce que c'est que de produire de la richesse. Je ne sais pas ce que c'est que le progrès technique. C'est un truc qui m'horripile, qui me sort par les yeux. Chaque progrès entraîne une perte d'une connaissance, ça c'est sûr. Donc il y a plein de choses qu'on savait faire au Moyen-Âge, qu'on ne sait plus faire aujourd'hui. Donc toutes ces notions-là, et alors la hiérarchie sur la qualification, ça paraît, c'est un truc qui me confie, quoi. Je vois pourquoi il y en a qui seraient payés. Enfin, la qualification qui soit reconnue, c'est quelque chose qui me paraît très séduisant. Maintenant, mettre une hiérarchie, une valeur, alors ça veut dire qu'il y en a qui seraient payés plus que d'autres, ça c'est pareil, c'est quelque chose que je ne comprends pas. Moi, j'ai jamais pu comprendre pourquoi quelqu'un était payé plus cher que moi et pourquoi quelqu'un était payé moins cher que moi. Pourquoi le mec qui se fait chier dans la rue, dans le froid, à ramasser la merde et pas payer cher, c'est quelque chose que j'ai jamais compris. Pourquoi un abruti de connard, fils de papa, là, du 15e, qui a le privilège de faire des super études, qui se retrouve chirurgien à faire 2-3 petits bouts de machin, et payer des 1000 et des 100, j'ai jamais compris. C'est un truc, je comprends pas. Alors pourquoi reproduire ça, je comprends pas. Et en ce sens-là, je rejoins un peu, je pense, ben, j'ai pas très bien compris ce qu'elle a dit, mais moi, le revenu universel, il m'irait bien, quoi. On irait travailler quand on irait travailler, à un employeur si on a envie d'avoir un employeur, et puis voilà, mais de toute façon, je veux dire, enfin, on se lève le matin et on produit, surtout pas des richesses, mais on produit de la pensée, on produit de la culture, on produit, et on produit, quelqu'un qui est un handicapé, il produit, et un enfant de 2 ans, il produit, quand il apprend à marcher, il produit, le problème, il n'est pas là.
Oui, il ne faut pas confondre richesse et argent, etc. Enfin, je crois qu'il faut faire attention. Hein. J'ai utilisé le mot richesse au sens de, de valeur d'usage, enfin des choses utiles.
Hein. Qu'est-ce que c'est qu'une chose utile?
C'est des choses humanisantes, on va dire, voilà, si vous voulez. Des choses qui nous font grandir en humanité, je ne sais pas, moi, mais s'il n'y a pas de progrès, la question est compliquée. Mais
quelque chose utile pour moi ne sera pas pour quelqu'un d'autre, et c'est là ça. Quelque chose qui est riche pour moi ne sera pas pour quelqu'un d'autre.
Et comment vous avez le montant du salaire? Comment c'est déterminé la valeur du salaire? La qualification.
Alors, sur la question des hiérarchies du montant de la qualification, oui. Alors, sur cette question, oui, je fais peut-être ce que vous vouliez dire, excusez-moi. Sur le point du montant, de la hiérarchie, etc. Je pense qu'il faut passer par la question, et puis de la fiscalité aussi d'ailleurs, autour de la CSG, parce que les choses peuvent se lier. Il faut passer par la création monétaire. Et la crise actuelle va être l'occasion de mettre en cause le mode actuel de création monétaire. On a des occasions maintenant, les esprits s'ouvrent un peu, hein. Ce qui paraissait des fatalités ne sont plus, et donc il faut pas faire il faut pas se tromper dans ce qu'on raconte. Hein. Il faut aller loin. La création monétaire, pour le moment, elle se fait par anticipation des valeurs attribuées à des marchandises. Les banques commerciales prêtent à des entreprises en anticipant leur chiffre d'affaires, en anticipant la valeur donc de marchandises. Et la banque centrale refinance les banques commerciales, elle entérine, disons, cette création monétaire qui se fait à l'occasion de la valorisation de marchandises. Donc, à l'heure actuelle, la médiation de la création monétaire, c'est la marchandise capitaliste. Produit dans une logique capitaliste. Cette mode de création monétaire fait haut de toutes parts. Parce que c'est à l'occasion de l'attribution de valeur à ces marchandises que on va reconnaître, outre le profit, puisque la marchandise permet le profit, quand il n'y a pas marchandise, il n'y a pas possibilité de profit, donc évidemment c'est fondamental, le salaire correspondant à l'activité de ceux qui ont produit la marchandise, mais également le salaire correspondant à tout le travail non marchand, des soignants, des fonctionnaires, puisque c'est avec cette monnaie que nous allons avoir des cotisations sociales, que nous allons avoir des impôts, et tout le travail produit par, sous forme non marchande et non subordonnée, par les retraités, pour l'essentiel, parce qu'il n'y a guère qu'eux qui sont payés pour travailler librement actuellement dans nos sociétés. C'est pour ça d'ailleurs que c'est après 65 ans ou à 65 ans qu'on est le plus heureux globalement. Enfin, si on est homme, hein, parce que les femmes, ça a quand même été à faire quand même. Hein, la carrière complète n'est pas encore assez loin. Hein. Le fait que les marchandises soient gonflées, non seulement du profit, ce qui est très trop, je suis d'accord, encore qu'une partie, de toute façon, il faudra bien le mettre en cotisation économique pour de l'investissement. Non seulement du salaire de ceux qui ont produit ces marchandises, mais aussi du salaire de ceux qui produisent du non-marchand, voire même du non-subordonné, fait que dans nos sociétés où le non-marchand et le non-subordonné est payé, c'est l'invention du XXe siècle, de payer le non-marchand et de payer le non-subordonné par du salaire, fait que dans nos sociétés, les marchandises sont produites à un prix qui les rend totalement non compétitives au niveau mondial, comparé à des pays qui ne reconnaissent pas de valeur monétaire au travail non marchand ou au travail non subordonné. Toute l'ambition de la classe dirigeante à travers la réforme, c'est de réduire la reconnaissance du travail non marchand et du travail non subordonné, de réduire la reconnaissance du travail marchand aussi, bien sûr. Si possible, de ne plus le reconnaître du tout sous forme de salaire, pour les vertus que j'ai dites du salaire, les vertus absolument considérables, totalement neuves, pour revenir à ce qu'on connaît, c'est-à-dire l'impôt et l'épargne. L'intérêt de l'impôt, c'est qu'on va pouvoir faire du lien social par de la solidarité nationale, la solidarité intergénérationnelle et toutes ces foutues solidarités dont il faut que nous débarrassions si nous voulons voir clair. Et puis, l'épargne, parce que ça permet de recycler au service du capital la reconnaissance du travail. C'est les deux enjeux de ces deux piliers. Puisque l'accumulation financière aujourd'hui dans le monde, elle est essentiellement fondée sur la valorisation du travail, pour l'essentiel. C'est les fonds de pension, c'est tout cela. L'épargne salariale, tout ça, toute l'accumulation financière, elle est fondée sur la rémunération. Donc, c'est vrai que créer de la monnaie à l'occasion de la marchandise met en permanence en péril le non-marchand ou le non-subordonné. Mais la CSG est une illusion qui... parce que la CSG, elle ne nous fait pas sortir de cette création monétaire. Donc l'impôt, on le remarque, hein, la CSG qui s'est substituée à la cotisation sociale, ça n'a jamais été pour ajouter des recettes nouvelles. Pas du tout. C'est parce que c'est une conception de la fiscalité comme au service de la solidarité, pas au service de la reconnaissance de la qualification. Nous ne pourrons sortir par le haut la crise actuelle qu'en changeant la médiation de la création monétaire. Non pas la marchandise, mais la qualification. C'est l'attribution de qualification aux personnes, ça pose énormes problèmes de coordination. Je vais y venir parce que c'est évident. Mais soit vous décidez que le marché, c'est définitif, soit il faut que vous affrontiez la question. Je ne crois pas qu'on puisse y échapper. Si on ne l'affronte pas, on considère que le marché est définitif. Et on est dans le modèle nordique. Sécurisation des parcours professionnels, distinction entre ce qui relève de la solidarité nationale, ce qui relève du professionnel, garantie par l'État d'une pension publique, vous voyez Piketty, un texte récent d'un des penseurs socialistes, modèle suédois, en fait, etc., etc. Ça, c'est, pour moi, c'est l'adversaire par excellence, puisque c'est ce qui tente de se substituer comme présentable, hein, à la logique en échec. Créer de la monnaie à l'occasion de l'attribution de qualifications, ça suppose évidemment un changement complet du système bancaire. Ça suppose des lieux de délibération politique. Ça suppose une coordination macroéconomique. Jusqu'à présent, on ne peut pas dire que ce qui a été tenté dans les pays socialistes soit un modèle, bien sûr. Mais n'oubliez pas que ce qui était dans les pays socialistes reposait sur la négation des droits des individus. Alors qu'avec le salaire universel, il s'agit au contraire de poser les individus comme titulaires incontestables de droits à travers le salaire. Dans quelle hiérarchie et pourquoi une hiérarchie ? Parce que je ne raisonne pas pour dans 1000 ans. J'espère que dans 1000 ans, il n'y aura plus de hiérarchie. Je raisonne pour aujourd'hui. Ce que je propose, c'est des choses qui sont une réponse aujourd'hui. Ce que je constate, c'est que quand il y a négociation collective, forte, au niveau des branches, la hiérarchie des salaires se réduit. La délibération politique aboutit à une hiérarchie qui est en gros de 1 à 3. C'est les années 70 où on est au sommet de la négociation. À peu près, les hiérarchies salariales sont de 1 à 3. Depuis que nous sommes moins dans les... On reste encore dans les négociations collectives. Mais depuis que nous sommes moins dans la négociation collective de la qualification, la hiérarchie salariale s'est nettement réaugmentée. Donc moi, je fais confiance à la délibération politique de la qualification pour contenir la hiérarchie salariale dans des limites raisonnables. Mais pourquoi une hiérarchie des qualifications parce que je pense que nous ne sommes pas du tout mûrs. Nous sommes mûrs pour un revenu universel. C'est pour ça que c'est tellement dangereux. C'est-à-dire une espèce de plancher qui permettra ensuite que fleurisse là-dessus un marché du travail. Mais nous ne sommes pas mûrs, un marché du travail avec des tas de hiérarchies pour le coup, hein. Mais nous ne sommes pas mûrs pour une distribution égale des qualifications. Nous ne sommes pas mûrs... Nous ne sommes pas mûrs pour des individus qui ne progressent pas en qualification au cours de leur existence, qui soient dans une espèce de forfait indéfini de qualification sur l'ensemble de leur existence.
Ça fait 30 ans que c'est comme ça.
30 ans. Et ça vous va ?
Très bien.
Ah ben,
moi, je me suis assis dessus.
Ah ben, c'est bien.
Assez facilement.
Bon,
ce qui me gêne, c'est que ça diminue. Là, j'ai vraiment du mal.
Non, mais la pauvreté volontaire est assumée, moi
non,
je la respecte.
Pas non.
Moi je la respecte.
Non, non, je ne sais pas pourquoi tu es jamais. Tu dis que ça dépend, on ne l'a pas augmenté.
Oui.
Moi j'ai augmenté. Je travaille 10 fois mieux qu'il y a 30 ans. Parce que 30 ans, j'ai une expérience, j'ai un métier, j'ai progressé.
Oui.
Et finalement, est-ce que j'ai besoin d'avoir plus de salaire? Moi, je suis pour un revenu universel, unique, et universel à tous, et avec toute autre activité non rémunérée. Voilà.
Je pense qu'il faut un régime politique assez autoritaire pour faire advenir cette idée-là dans la société.
Sur la question des questions que vous avez posées à propos du marché du travail, dans la qualification personnelle, il y a un élément que je n'ai pas mentionné parce qu'on ne peut pas tout dire d'un coup. La qualification personnelle, c'est à la fois la reconnaissance incontestable par un aléa quelconque de l'existence. Et du rapport au travail, d'une capacité à créer des choses utiles. Si le mot richesse ne vous va pas. Bon, le mot utile non plus. Bon. Mais quand on ne désigne pas les choses, on est dans l'ineffable et je crains les conséquences politiques de l'ineffable.
On a envie de créer sur le moment où on crée.
Ouais. Alors là, on est une espèce d'anarchie de l'idéal individuel. Je vois pas très bien comment il peut. Oui, il faut arrêter.
On va conclure.
D'accord. Il y a une deuxième dimension qui est le salaire, il y a cette qualification, et une troisième dimension qui est le collectif de travail. Attribuer une qualification à quelqu'un, c'est forcément personnaliser un collectif de travail. D'ailleurs, ceux qui sont le plus en mesure aujourd'hui de dépasser le marché du travail, ce sont ceux qui ont des collectifs de travail liés à leur personne. Et non pas liés à leur employeur. J'étais très frappé, par exemple, par l'échec d'une revendication que la CGT me proposait d'étudier comme une espèce de parangon de la sécurité professionnelle, qui était une proposition, au nom de l'idée « un site, un statut », une proposition donc d'une convention de site au CERN, au Centre de Recherche Nucléaire. Où il y a effectivement de la sous-traitance avec des gens qui sont dans des situations de statutaires extrêmement diverses entre les fonctionnaires du CERN et puis toute une série de sous-traitants divers et variés. Alors, c'est des sous-traitants spéciaux, c'est-à-dire qu'ils n'embauchent pas en dessous de Bac plus 2 au CERN, mais enfin, j'ai été très surpris de voir que ça marche pas. Cette idée, une convention, enfin un site, une convention pour dépasser la sous-traitance. Alors que ça marche aux ateliers... Naval, dans les ateliers navals. Enfin, ça, là, pas du tout. Et j'ai interrogé les salariés, et qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu des salariés qui ne s'identifient pas du tout au collectif de travail de leur employeur. D'ailleurs, leur employeur, c'est pas le CERN, d'accord? Mais le CERN non plus les intéresse pas. Ils ont un collectif de travail qui, certes, se sont bricolés sur place avec ceux avec qui ils bossent sous des statuts divers et variés, mais aussi un collectif de travail qui excède très largement, à travers des associations professionnelles, à travers des clubs, des machins, et ils font leur carrière qui n'est pas liée à l'employeur. Alors, ils bricolent parce que les droits à la qualification professionnelle sont pas acquis. Donc, ils sont dans des situations très contradictoires. Mais ça m'a fait beaucoup réfléchir sur pourquoi est-ce que ce sont les militants syndicaux et les cadres qui s'en tirent le mieux en cas de PSE? Parce que les militants syndicaux et les cadres ont un collectif de travail qui leur est propre. Et ils ne sont pas à poil lorsque l'entreprise ferme. Et c'est en ce sens-là qu'il n'y a pas marché du travail. Il n'y a pas marché du travail parce que chaque individu est titulaire non seulement de son salaire et de sa qualification, mais aussi du collectif de travail sans lequel il n'y a pas de qualification. Parce qu'une qualification qui se comprend dans le collectif de travail, c'est rien du tout. C'est pour ça que l'idée de distribuer du revenu et puis les gens se démerdent, ça, moi, j'y crois pas du tout. Le travail, c'est une activité collective, exigeante, dans la sphère publique, qui exige des fonctionnements de collectif de façon... Mais toute la question est de savoir à qui appartient le collectif. Est-ce que c'est le personnel, comme on dit très justement, de l'autre, de l'employeur, hein, qui a son personnel, hein, ou est-ce que c'est notre personnel? Est-ce que les syndicats, c'est les IRP, représentation représentative du personnel, ou est-ce que c'est la représentative du salarié? Ça, le rôle des syndicats, du coup, change considérablement dans leur capacité à entretenir les collectifs de travail attribués aux individus. Bon.
C'est-à-dire que ça recoupe avec beaucoup de débats sur le travail.
Oui, bien sûr.
On déborde forcément sur d'autres questions à partir de l'entrée, qui montre bien quand même que la sécurité sociale et ses principes sont quand même le centre à partir duquel on peut repenser l'organisation sociale.
Absolument, ça c'est vraiment la conclusion de cette affaire. La sécurité sociale, c'est l'institution la plus moderne que nous ayons. Mais à condition non pas de la défendre, de défendre le programme du CNR, c'est pour ça que je suis tellement... Défendre le programme du CNR, je m'en fous, en plus il n'y a pas de programme du CNR. Alors arrêtons de nous emmerder avec ça, mais... Prenons en revanche la mesure de l'extrême novation que représente le salaire et posons-nous comme salariés et non pas comme travailleurs, comme salariés et non pas comme ayant des emplois, etc.
Voilà, sur ces mots forts, on va conclure ce soir. Merci d'être resté ici.